Libre Radio, la radio qui bombe le torse, qui dresse l'antenne et qui émet des phéromones. www.libradio.org.
Voilà, donc nous sommes de retour pour ce direct depuis Jour de Fête aux Grottes. Alors on va quand même dire qu'on est à la rue des Amis, que si tu souhaites nous y rejoindre, eh bien c'est dans le sud des Grottes, c'est derrière le pavillon bleu, tout près de la gare Cornavin finalement, qu'à côté de nous siègent les crêpes, et ça a l'air franchement pas mal. Il y a une sorte de garniture immense qui fait comme une montagne sur la crêpe qui chauffe. Franchement, ça donne envie. Et puis, il y a l'infokiosque avec toutes ces brochures extrêmement intéressantes. On fait face à l'exposition de banderoles. Alors, c'était toutes les banderoles. Je pense qu'il y a à peu près les podcasts de toutes ces manifs. Genève, soulève-toi, le truc contre la gentrification. Enfin, c'était toutes ces manifs. L'État cultive le vide, hein, avec les gens de Malagnou, tout ça, tout ça. Et puis, eh bien, Fantin, le vibraphoniste qui est en cours de concert en ce moment. Et c'est extrêmement agréable d'avoir cette musique-là comme tapis, plutôt que le tumulte des gens qui vont venir derrière lui et que l'on ne salue pas du coup. Voilà, parce que c'est des DJ, ils font des trucs de fou, là ça fait beaucoup de bruit, ça brasse beaucoup d'air, mais au bout du compte ça fait pas de sens quoi. Mais non, je blague, c'est les gens de Besmen, tout ça, c'est tous des amis, on est content d'être là. Et puis il faut le dire aussi, hein, la fête s'étend jusque dans le nord des Grottes, donc c'est tout le village qui est en fête, avec des multiples stands alimentaires, culturels, associatifs. Il y a à la rue de la Fossy, je crois qu'ils sont, non, à la... Je ne sais plus très bien où ils sont, mais il y a aussi le vide-grenier des enfants. Ça, c'est un truc vachement sympa. C'est que les enfants qui font le vide-grenier. Ça, je trouve assez cool aussi. Alors, nous sommes donc en compagnie de Myriam et de Nesrine pour le collectif, enfin, qui avait cofondé le collectif L'Esquad. Et Lynn, qui, elle, a cofondé avec Alessandra Crépidule. Et nous voulions proposer cette discussion, dont l'intitulé, le libellé est le suivant. C'est quoi faire la fête? Attitude adéquate ou inadéquate? Adelphité ou alibi? On le rappelle, la Adelphité, c'était pour nous l'équivalent de fraternité, de sororité mise ensemble. Est-ce la fête, réellement la fête, ou est-ce un guet-apens sous couvert? Discussion pour s'organiser en vue de solutions opérationnelles. Voilà, alors le libellé, il est un petit peu, on voulait un peu, c'est pas de la provoque, mais disons, voilà, on voulait se dire, quand on a utilisé le mot guet-apens, c'est vrai que c'est un mot un petit peu quand même... peut-être violent ou peut-être pas, je ne sais pas, c'est vous qui allez le dire. Mais voilà, on sait qu'ici également en Grotte, il y a eu récemment une actualité assez terrible avec notamment une femme qui a été assassinée, pour des histoires dont on ne sait pas exactement quels étaient les tenants et aboutissants. Mais voilà, son ex-compagnon, si j'ai bien compris, est sorti avec une arme et puis là abattu un petit peu plus haut ici dans le quartier des Grottes. Et c'est un quartier dont on dit qu'il est mal famé et dont on dit qu'effectivement la nuit, c'est un petit peu compliqué de s'y balader. Alors voilà, je voulais... la discussion est lancée, le micro est tendu. Je ne sais pas si toi, Aline, tu voulais peut-être commencer, initier cette discussion.
Ouais, je peux faire ça. Donc, William, tu nous as proposé, Alessandra et moi, de venir ici aujourd'hui et de parler notamment de fêtes. Donc, Alessandra n'a pas pu venir, mais je me suis demandé qu'est-ce que c'est en fait la fête. Donc tout d'abord, j'ai pensé à la fête nocturne, qui est peut-être, la première chose auquel on pense quand on dit faire la fête. Mais quand même, dans cet acte de faire la fête, il y a beaucoup de nuances, beaucoup de manières différentes de la faire. Et ensuite, il y a aussi d'autres fêtes comme les fêtes traditionnelles ou les fêtes de famille, les fêtes d'anniversaire, les fêtes pour marquer une étape de vie ou célébrer un événement particulier. Et puis, il y a aussi les fêtes de quartier comme celle-ci aux Grottes. Donc moi, j'ai vraiment d'abord pensé à la fête nocturne au milieu de la vie nocturne. Et dans l'intitulé là, du sujet, il y avait cette idée de guet-apens. Moi, je le trouve un peu trop violent. Peut-être, mais c'est vrai que en tant que femme, donc là de parler d'une expérience, je parle d'expérience personnelle, mais aussi de beaucoup de témoignages qui circulent, de sortir, faire la fête, En tant que femme, c'est souvent aussi devoir mettre en place tout un pan de stratégie pour se déplacer dans l'espace public la nuit. Ça demande beaucoup d'organisation, je dirais. Et on veut savoir où est-ce qu'on va aller, avec qui, comment est-ce qu'on pourra rentrer de l'endroit où on va faire la fête, par quels endroits est-ce qu'on va passer, est-ce qu'il y aura assez de lumière, est-ce que c'est des endroits craignos, est-ce qu'il y a un bus, est-ce qu'on a assez d'argent pour le taxi. Enfin, c'est toutes des choses qui, je pense, deviennent très mécaniques, en fait. Au bout d'un moment, on n'y pense plus, mais qui occupent quand même tout un espace mental très important.
Et qui mobilise une énergie, effectivement, parce qu'il faut... C'est-à-dire que là, tu dis le cheminement même qui mène et qui ramène de la fête, c'est déjà là l'objet d'une stratégie.
Oui, je pense. Ouais, tout à fait, ouais.
D'accord.
Qu'est-ce que je voulais dire ?
Oh, pardon.
Non, mais c'est... Oui, c'est vrai que c'est pas... Parce que quand on parle de faire la fête, il y a cette idée de un peu exutoire, d'un exutoire, de quelque chose pour se défouler, pour se libérer un peu de stress, de tension. Mais c'est aussi une action qui peut générer en fait, du stress, qui peut générer beaucoup de tension. Après, tu parles des grottes comme un endroit... où il y a, enfin, qui serait entre guillemets dangereux.
Voilà, ouais.
Je pense que c'est des représentations. Je pense pas que c'est forcément faux, mais je pense qu'il y a beaucoup d'endroits où il y a des agressions, beaucoup d'endroits qui peuvent être stressants, violents et craignos en fait. Donc c'est pas forcément un quartier en particulier ou un endroit en particulier.
Quelque chose de diffus, tu veux dire. Alors, si je peux me permettre de poser déjà une question.
Oui, bien sûr.
Non, parce que je veux pas, si tu es dans un schéma mental, tu vois, je veux pas te couper ou t'interrompre. Pourquoi ces stratégies doivent être mises en place ? Dans quel but, je veux dire ? Est-ce qu'il faut penser ces stratégies-là ? Et quelles sont-elles, ces stratégies ?
C'est des stratégies de sécurité personnelle, je pense, tout d'abord, de savoir quoi faire en cas d'agression, qui appeler, comment... En fait, en tant que femme dans l'espace public, qu'on aille faire la fête ou pas, c'est égal, mais c'est des stratégies on est obligé de les mettre en place. Et ça, il n'y a pas le choix.
Ok.
Mais après, si on se reporte peut-être plus vraiment au monde de la nuit, il y a aujourd'hui aussi des initiatives, des structures qui se mettent en place pour réfléchir sur ces notions justement de comment créer des espaces nocturnes plus safe, des lieux de fête plus safe. Et à Genève, il y a notamment le collectif We Can Dance It qui promeut une vie nocturne égalitaire, safe et agréable pour toutes à travers des actions de communication et de sensibilisation. Donc c'est aussi un label qui propose des formations aux établissements et acteurs du milieu nocturne. Donc ça, je pense que c'est très intéressant aussi de penser la vie nocturne pas seulement comme... des individus qui sortent, mais aussi comme en fait tout un tissu de personnes en fait qui travaillent. C'est vraiment un monde aussi professionnel sur lequel on peut travailler, qui peut aussi être formé et modulé pour devenir plus inclusif.
D'accord. Nesrine, toi également, donc pour en revenir à ces stratégies, toi-même, donc Myriam également, donc ces stratégies de cheminement en tout cas, comme vient de nous l'expliquer Lynn. Est-ce que ça vous habite aussi ? Est-ce que ça fait partie du moment où vous organisez la fête, votre fête, la sortie en fête, l'accès aux fêtes ? Et dans ce cas-là, quelles sont-elles ces stratégies justement ?
Ce que je voulais dire en fait pour rebondir sur ce que Lynn vient de dire, c'est que c'est très intéressant en fait de porter un peu un regard extérieur, parce que des fois je pense en tant que garçon, on se rend pas compte en fait que nous les filles, on se construit en fait comme ça, puis que sortir, aller en soirée, ça implique tout un tas de choses. Et puis c'est juste des fois quand on commence à se questionner, mais est-ce que c'est vraiment normal ? Est-ce que je devrais vraiment me poser la question de est-ce que du point A à point B, ben ok, je vais être toute seule, c'est peut-être un peu de chaud, peut-être il faudrait plutôt que je prenne un bus, un taxi, mais mince, un bus, il n'y en a que toutes les deux heures, c'est un peu embêtant. En fait, c'est vraiment quelque chose qu'on s'est construit comme ça, et en fait, en tant que femme, on l'a tellement intégré que c'est des fois même un peu difficile de se rendre compte que, purée, il y a quand même on porte en fait des pierres sur notre dos et qu'on les traîne en fait tout au long de la soirée. Après, par rapport à ta question, par rapport aux stratégies, c'est tellement, je pense que tu viens de le dire, ben c'est éviter de se retrouver toute seule dans des endroits où il y a peu de lumière, parce que voilà, on a tout simplement pas beaucoup de visibilité. Donc c'est être au maximum accompagné, ou alors rentrer dans les transports publics, même si évidemment on sait que les transports publics ne sont pas forcément des lieux safe, dans lesquels il n'y a pas de débordement, souvent même en rentrant de soirée, donc des fois c'est peut-être même le moment où il y en a le plus. Donc voilà, je pense que ce que j'ai envie de dire, c'est que en fait, c'est un peu un choix, en fait, mais dans lequel on n'a pas vraiment de choix non plus, parce que ne pas sortir pour éviter de se confronter à ce genre de comportement, ben, pour finir, on ne fait plus rien, quoi. Donc en tant que femme, c'est sortir, mais être conscient en fait, de tout ce que ça implique. Et ce n'est pas forcément facile.
Okay. Myriam, tu aimerais...
Oui, moi je pense pareil, et je pense que c'est même vraiment c'est ce genre de stratégie ou ce genre de... Tout ce que ça implique, ça nous prend énormément d'énergie de réfléchir là-dessus, ça peut être très stressant. C'est aussi la journée, en fait, de savoir où est-ce qu'on va aller, le fait que les gens, on aura des regards, on aura des remarques, on aura des sifflements, etc. Donc, c'est clair que dans le monde de la nuit, ben, ça peut faire encore plus peur, et puis ça peut prendre différentes formes, mais moi, je pense que c'est un peu un tout, en fait. Et c'est vraiment fatigant, en fait, c'est ça.
Ouais, c'est ce qu'on disait, l'énergie que vous devez y consacrer, j'imagine que c'est terrible. Et puis la pression nerveuse, psychologique, tout ça. Fin... Mais c'est important de ne pas renoncer non plus à sortir, bien entendu. Exactement. Même si j'imagine que la tentation, des fois, elle survient. Mm-hmm. On se dit, bon, tant pis, quoi.
C'est sûr.
Ouais, et puis je pense qu'on se crée aussi... Enfin, moi, je le vis assez... Enfin, personnellement, je pense que... à cause du sexisme, à cause des agressions ou des micro-agressions qu'on subit quotidiennement en tant que femme, on a en fait une géographie qui est tout à fait différente de celle des hommes, hein. Et notre manière de se déplacer en ville, de mentalement concevoir la ville est différente. Et il y a un mapping comme ça qui se passe tout le temps, et qui c'est aussi beaucoup de bouche à oreille. On sait que des amis dans cet endroit-là se sont fait agresser, donc on n'y va plus, ou on évite, ou enfin c'est aussi beaucoup de communication, je pense, entre femmes qui fait que voilà, c'est aussi une stratégie en fait de parler des expériences, de témoigner. Mais après, évidemment, c'est compliqué, parce qu'on peut pas, on va pas arrêter de sortir. Mais c'est vrai qu'on aimerait bien aussi que, enfin, chaque sortie soit pas une sorte d'acte de résistance non plus, quoi. On aimerait juste aller faire la teuf et c'est tout.
Bah bien sûr. Ouais.
Bah ouais. Par exemple, en soirée, c'est vrai que, par exemple, je prends l'exemple de l'usine où je sors de temps en temps. Et ben, s'il y a des garçons qui m'embêtent, je trouve, enfin, que moi en tout cas, j'ai eu une bonne expérience en parlant avec les videurs, ils ont pu vraiment m'aider, et puis ça c'est vraiment très positif. Par exemple, donc, comme tu disais, la formation du milieu professionnel des soirées, c'est vraiment très très important, parce que ça va changer. Maintenant je sais que quand je vais à l'usine, ben, en tout cas moi, selon mon expérience, je me sens mieux. Mais par contre, le problème, c'est qu'il y a quand même des garçons qui embêtent et qui touchent et qui harcèlent, etc. Donc ça c'est l'éducation des garçons. Donc ça, il faut vraiment éduquer les garçons, éduquer ses amis, en parler avec ses amis. Enfin, moi, en tout cas, pour moi, ça m'aide. Mais voilà.
Vous avez connaissance, justement, tu as, Lynn, déjà cité Weekend Dance
It.
Voilà. Connaissez-vous d'autres structures, d'autres collectifs, associations qui vont un peu dans ce sens-là et que l'on peut, comment dire, questionner ou qui ont des guides ou quelques informations bonnes à avoir?
Moi, en faisant un peu des recherches, là, j'ai vu que la Romandie à Lausanne a organisé récemment une table ronde sur comment construire des lieux de fête plus safe, avec, maintenant, j'ai pas noté les noms, mais des spécialistes sur ces questions-là. Je sais aussi qu'il y a des choses qui se passent en France. Il y a aussi des organisations qui font des soirées non mixtes. Après, c'est aussi quelque chose qui se discute parce que c'est vrai que je pense que... Enfin, c'est vraiment une manière très différente, je pense, de voir la soirée, quoi, de voir aller dans un espace non mixte. Bon, ça peut être un plaisir, mais ça, disons que ça enlève pas l'idée que c'est craignos de sortir, quoi.
Ouais. Alors, justement, je voulais. Là, on a parlé déjà de la logistique, hein, du fait que du cheminement. J'allais vous demander et la fête et les lieux de fête. Là aussi, également, est-ce que il y a des fêtes dont est-ce qu'il y a un réseau comme ça qui se construit informel, donc les personnes qui disent non mais cette fête-là, il ne faut juste pas y aller parce que voilà, parce qu'on sait qu'elle est craignose, qu'elle attire des gens, voilà, je ne sais pas, hein, on pourrait prendre je sais pas, un match de foot, je ne sais pas quoi.
Moi je pense qu'il faut faire attention de pas dire que ça attire telle ou telle personne. J'ai souvent l'impression que c'est plus des histoires d'ambiance. Qui peut avoir des ambiances beaucoup plus violentes où en fait les agressions sexuelles sont beaucoup plus admises. Je pense que je pense qu'il faut vraiment faire attention de pas dire là-bas il faut pas aller parce qu'il y a tel type de personne.
Oui, non, tu fais bien sûr, absolument. Et également les lieux, est-ce que vous avez la sensation, Myriam, tu viens de parler de l'usine, que les lieux font des efforts, fabriquent des outils qui puissent éviter ce type de situation-là. Vous l'avez évoqué, mais j'aimerais bien, si vous êtes d'accord, qu'on vienne là-dessus, sur effectivement les espaces non mixtes pour vous, est-ce que c'est quelque chose qui est pertinent, valide, qui est essentiel? Est-ce que les espaces safe pourraient avoir cours dans certains endroits avec effectivement des personnes qui seraient là pour recueillir éventuellement le désarroi de personnes qui seraient là et intervenir en accompagnant, en faisant une médiation, enfin des choses comme ça.
Ben oui, après, tu as évoqué pas mal de choses là, mais je pense que la non-mixité, c'est quelque chose de très important en soirée aussi. Donc, pour plein de choses, mais parce que ça permet tout simplement... à des filles et à plein de personnes de toute orientation, de plein de choses, de pouvoir juste sortir dans un endroit où elles se sentent en sécurité avec des gens qui traversent plus ou moins la même chose et dans lesquels elles peuvent se sentir un peu soufflées, quoi. Donc pour moi c'est vraiment quelque chose, il faudrait même pas le remettre en question à chaque fois que, mais bon après on voit qu'à chaque fois qu'il y a des soirées en non-mixité ça fait toujours un bruit pas possible parce que d'une certaine manière non-mixité on exclut des gens mais on exclut les personnes qui sont toujours en fait présentes partout, donc ça fait toujours beaucoup de bruit et puis j'ai pas envie non plus qu'on centre en fait tout le débat toujours autour de la non-mixité parce que ça fait toujours tellement de bruit et puis c'est un débat un peu chaud, mais en tout cas, moi, je pense que c'est vraiment indispensable.
Mais peut-être pour nuancer cette histoire de non-mixité, je pense que la non-mixité, ça peut vraiment être un outil et on n'est pas obligé de penser qu'en termes de soirées non-mixtes, mais ça peut aussi être des soirées avec des zones non-mixtes où des personnes vivent des agressions, qui subissent du sexisme, peuvent aller récupérer un peu. Reprendre des forces, comment dire, mais c'est vraiment ça, quoi.
Voilà, des sortes d'espaces, justement, safe, qu'on disait, dont on parlait, des zones vraiment où on sait que là... Et puis, que pensez-vous, parce que lors de au moins une manifestation, mais je crois également au rassemblement féministe nocturne, de la marche féministe nocturne, je ne sais plus quand c'était, mais quoi qu'il en soit, un groupe de gens était organisé pour justement être à disposition et pouvoir faire groupe et donc de cette manière-là installer un rapport de force.
Ouais. En fait, donc c'était pendant la marche du 8 mars, c'était donc la marche non mixte et en fait elles avaient mis donc les organisatrices en avant un collectif qui s'appelait, je crois, les organisatrices de la mainteneuse de la bonne ambiance.
C'est ça, exactement.
Et en fait, c'était des personnes qu'on pouvait reconnaître dans la manifestation parce qu'elles avaient des trucs un peu brillants dans les cheveux. En fait, elles étaient déguisées. Et en fait, je les ai vues tout au long de la manifestation aller en fait vers des personnes qui aurait, qui avait peut-être un peu tendance à regarder les personnes qui passaient un peu comme ça et à pas être forcément d'accord ou même à aller à avoir des réactions un peu plus agressives. Elles étaient vraiment présentes en fait pour expliquer le pourquoi du comment de la non-mixité et pourquoi c'était important pour elles. Donc voilà, moi je pense que c'est vraiment important d'avoir en fait à côté des personnes qui sont là pour pouvoir expliquer pourquoi on fait ça, parce qu'évidemment il n'y a pas tout le monde qui sait et ça peut peut-être au premier abord paraître un peu violent comme mode d'action. Ça devrait, les gens ne devraient pas le voir comme ça, mais je pense qu'il faut du coup mettre à côté des choses pour que on le comprenne.
D'accord. Bon, on voit bien qu'il reste beaucoup de pédagogie à faire.
Exact.
Et en même temps qu'il y a cette urgence de changer de situation. Parce qu'on ne peut pas, voilà. La question que je vais vous poser après, c'est vous, si vous deviez conseiller des choses à des jeunes filles qui commencent à sortir, je ne sais pas à quel âge on commence à sortir, peut-être à 14 ans, je ne sais pas, mais si vous aviez très concrètement des choses à dire ou des conseils à dire voilà, à des filles qui commencent à peine à sortir, voilà, par exemple de ne pas sortir seule, voilà, de se regrouper ou d'avoir un téléphone chargé puis un numéro.
En même temps, c'est terrible parce que ça veut dire de dire comment il faut faire, fais pas ci, fais pas ça, parce que si tu fais ça, alors tu risques de. Non, franchement, je sais pas, après moi j'ai 30 ans, je sais pas ce que c'est la réalité tu vois, un peu de sortir aujourd'hui quand on a 15, 16. Moi je sais pas, je dirais de sortir et have fun et puis je sais pas, c'est hyper dur, je pense que franchement c'est trop chaud quoi, mais
franchement je te rejoins trop, c'est super difficile, on peut pas mettre en place une marche à suivre. C'est ça. Après je pense que ce qui est important de dire, c'est que malheureusement ou heureusement, c'est un peu chacune doit faire sa propre expérience. Et puis les expériences seront tellement différentes en fait du milieu social dans lequel on est issu, des lieux de sortie où on va aller, si on est une personne racisée ou pas, les réactions, les agressions vont être différentes. Et voilà, je pense qu'il faut s'allier, en fait il faut discuter avec des copines qui sont féministes, et c'est le seul moyen en fait de pouvoir créer une sorte de une communauté, c'est en discutant et en partageant ses expériences.
Mais ça juste je pense que c'est vraiment important ce que tu dis, c'est de discuter avec je parle pour moi en tant que femme blanche, mais de discuter avec d'autres femmes autour de leurs expériences pour comprendre qu'on n'est pas seul aussi dans ce qu'on vit. Et que on peut aussi trouver beaucoup de force dans justement la communauté. Et puis après, moi personnellement aussi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est de lire par exemple des brochures sur l'autodéfense et en fait m'informer sur quoi faire en cas d'agression.
Voilà, les attitudes, peut-être certaines attitudes qu'il est préférable d'avoir.
Pas préférable ou pas, mais c'est de en fait moi ce qui m'a fait beaucoup de bien en lisant des brochures, notamment un clin d'œil à l'infokiosque, parce que moi ces brochures sur l'autodéfense que j'ai pu lire, c'était des fanzines, c'était juste en fait ça donne des idées quoi faire, parce qu'en tant que femme on n'est pas sociabilisée à se défendre, à crier, à prendre la place, à se débattre. Donc c'était juste en fait ça donne des idées sur s'il se passe quelque chose, si je suis dans un moment dangereux, ça donne des options en fait.
Ouais, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit, et puis je pense que c'est important pour chacune de faire ce qu'elle a besoin pour qu'elle ait pas peur en fait, et puis qu'elle ose continuer à sortir en soirée. Mais je pense que avant que les conseils pour les filles, c'est pas ça qui est indispensable, c'est surtout les conseils aux garçons en fait. Qu'ils se sentent tous inclus. Quand on dit tous les garçons, il n'y a pas juste quelques garçons qui harcèlent, c'est juste le fait d'être un garçon qui fait que c'est pas forcément qu'ils vont agresser, mais que peut-être que s'ils sont derrière nous dans la rue, on aura peur juste parce que c'est un garçon, on sait pas s'il va nous faire du mal ou pas. Donc ils doivent avoir un comportement qui cherche à nous à prendre conscience de ça et être conscient de ce que ça représente pour nous.
Ouais, c'est effectivement. Alors voilà, moi j'ai le point de vue du garçon. Effectivement, c'est moi ça me parle beaucoup ce que tu viens de dire là, parce qu'effectivement on a, puisque on se balade sans peur, de manière inopinée comme ça, on n'a pas conscience effectivement que le fait que nos pas résonnent dans un passage peut-être sombre le soir où on est peu, puisse effectivement réellement inquiéter et faire peur à une personne. Donc, comme vous le dites, effectivement, la prise de conscience des garçons, elle est essentielle. Et ben, c'est pour ça qu'on fait aussi ce bout de radio-là. C'est pour également parler aux garçons. Selon vous, juste, la situation actuelle à Genève, elle est comment? On est dans une situation compliquée. Et donc, vers quoi on va? Vous pensez qu'on est en train, ça va, on bouge vers un peu mieux? Est-ce que... Parce qu'il me semble qu'il y a quand même pas mal de collectifs qui sont présents, vous-même... bouger, parler, voilà. Est-ce qu'on sort un petit peu de l'ornière ou c'est pas encore top, quoi?
Alors oui, je pense qu'il y a pas mal de collectifs en ce moment qui se mobilisent pour faire peut-être des soirées non mixtes. Après, moi, je peux pas vraiment en parler parce que ça fait peut-être pas tant d'années que ça que je me revendique pleinement féministe. Donc c'était peut-être juste des choses que je connaissais pas avant. Donc je peux pas vraiment faire un avant et un après. Mais en tout cas, oui, de mon point de vue, j'ai l'impression qu'il y a pas mal de choses qui bougent. On l'a vu avec la création du label Weekend Dance It. Après, on l'a pas dit avant, mais j'ai vu par exemple qu'à la salle du Terreau, qui est en fait allouée par la ville de Genève, dans toutes les soirées, ils ont quand même des affiches où c'est quand même mis explicitement que si, en tant que personne, on se sent harcelé par quelqu'un, on peut aller se plaindre en fait aux responsables de la sécurité. Donc je pense qu'il y a pas mal de choses. Tu parlais avant, Myriam, des videurs de l'usine qui sont assez sensibles à ça. Alors oui, il y a un peu une mouvance. Après, je pense qu'on n'est vraiment pas encore sorti de l'auberge et que, en fait, le sexisme, il est structurel dans la société et que même s'il y a des petites initiatives qui sont mises en place en soirée pour essayer de guérir un peu ça, en fait, ce qu'il faudrait, c'est plus prévenir et c'est vraiment dans l'éducation des gens et dans la déconstruction des normes. Il y a tout un travail énorme qui est à faire. On parle de travail sociologique, je pense, qui se fait sur des dizaines d'années. Donc on est vraiment qu'au tout début.
D'accord.
Après, je pense qu'il y a peut-être pour sortir aussi de ce truc de sortir faire la fête la nuit, et justement plus rejoindre ce que tu dis, que c'est aussi une question de sexisme structurel dans la société. Donc déjà, en parler, je pense que c'est déjà quelque chose de très important. Et puis après, on peut aussi penser, comme je disais avant, le monde de la nuit ou le monde de la fête, en fait, comme aussi tout un réseau de métiers. Et comment, parce que c'est aujourd'hui un milieu qui est très masculin, et comment aussi rendre ce milieu plus féminin, en fait, qu'il y ait plus de femmes, notamment dans les programmations des festivals. Donc encore aujourd'hui, là, il y a Pitchfork qui a sorti un article il y a deux, trois semaines où ils ont un peu regardé les programmations des grands festivals de l'été. Et c'est en fait 70% de la programmation, c'est des hommes. Mm-hmm. Et puis 19% sont des femmes et 11% sont des groupes mixtes. Et là, on peut penser, par exemple à Genève, il y a les Créatives qui est une organisation et qui fait aussi un festival du même nom. Et à travers en fait leur programmation et leurs événements, cette organisation souligne l'importance d'une plus grande visibilité des femmes dans les milieux culturels, artistiques, musicaux et de fête. Donc je pense que ça, c'est aussi très important de travailler sur la représentation, aussi que les femmes puissent réapproprier cet espace de la fête, de la musique, et vraiment ces métiers aussi qui créent la fête, quoi. Enfin, ouais, c'est ça. Bon, mais du coup, on peut vous saluer à Libre Radio, parce que là... c'était des ingé-sons. Des
c'est vrai,
ingénieurs.
Sont, c'est, ouais, exactement. C'est elles qui font le travail. Moi, je fais la vaisselle. À Libre Radio, c'est effectivement.
Attention, les reproductions de stéréotypes.
Ouais, mais justement, c'est évidemment. Très bien, j'ai bien compris tout ça. Et effectivement, même ici, on le voit, hein, jour de fête, effectivement, la programmation est aux mains quand même majoritairement des garçons. Ça, c'est aussi quelque chose que selon vous, qui est en train d'évoluer, ou là aussi, on en est un petit peu encore loin, on n'est encore pas prêt, je sais pas.
On est tellement loin pour moi, mais tellement, tellement loin que ça me déprime complètement quand j'y pense. Mais dans tous les milieux, c'est juste incroyable les différences. Et justement, même dans le milieu de la fête, exactement comme tu viens de le dire, dans la programmation, partout, c'est juste partout. Donc c'est vraiment structurel et puis c'est, ça va être long, mais donc il faut vraiment continuer à se battre et puis faire le maximum là.
Je pense que c'est un peu le serpent qui se mord la queue, parce qu'on disait, oui, les femmes sont moins présentes dans le monde de la nuit parce que c'est moins sécuritaire, mais c'est aussi que ben voilà, se lancer en tant que musicien, lancer son groupe de musique, ben c'est quelque chose qui demande certaines aptitudes qui, je pense, aujourd'hui sont encore trop masculines. Peut-être que quand on est jeune, ça va, mais dès qu'on approche peut-être, je sais pas, des 30-40 ans et qu'en tant que femme, on a envie peut-être d'avoir des enfants, ben on a toujours ce paquet en fait physique qui malheureusement fait que ben, c'est moins possible et c'est plus difficile d'être à 100% disponible. Le garçon n'a pas cet inconvénient, donc voilà, je pense que on peut toujours le ramener en fait à la société de manière générale et qui fait que ça favorise plus les garçons que les filles.
Et c'est vrai qu'on observe également, pour revenir au monde et au métier de la fête, que eh bien, beaucoup les métiers techniques sont beaucoup, les garçons sont beaucoup sous-représentés dans les métiers techniques, hein, ou justement où certains postes clés là aussi, typiquement les ingé-sons, on dit souvent effectivement d'ailleurs ingé-sons, enfin on en voit très peu qui soient des ingénieurs sons, typiquement comme on a à Libre Radio, ou effectivement, donc là il y a un gros travail à faire certainement, ça c'est sûr. Ok, j'ai envie de dire que pour aujourd'hui, est-ce qu'on s'arrête là ? Est-ce que vous avez encore envie d'évoquer des sujets ? Je vous dis ça parce que peut-être que le son qui est assez fort...
Ouais, commence à taper. Hein.
Ouais, puis ça commence peut-être aussi à vous déranger ou pas. C'est audible, hein, ça c'est pas le problème, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, ça tape un peu dans la tête. Alors, je sais pas, à moins que vous aimeriez...
Moi, je suis contente en tout cas.
Ah bah, ouais, alors,
moi aussi. Hein.
Moi, j'ai envie de dire que... déjà, j'avais envie de vous remercier. Parce que à titre personnel, c'est extrêmement instructif. Et je vois bien que la remise en question, effectivement, il faut qu'elle soit permanente. Et ne jamais les omettre. Peut-être qu'une prochaine fois, on parlera également de ces dysfonctionnements. Et là, j'utilise vraiment un euphémisme. En milieu... j'aime pas le mot militant, mais en milieu un peu engagé. Parce que c'est vrai que nous, en tant que différentes associations, en tout cas... politisés et puis engagés, eh bien, heureusement que parfois, on arrive à faire une petite photo en disant « Attention, soyons vigilants parce que les comportements millénaires qui nous sont... qui ont été... les rôles qui nous sont assignés, eh bien, des fois, reprennent un peu, tu vois ?» Et la conscience, la fatigue, mille et un alibis font qu'on s'oublie un petit peu. Donc, je trouve que, voilà, c'est quand même important d'avoir tout le temps des personnes, des pères, P-A-I-R-S, qui te disent... là, vous êtes en train de déconner quand même.
Mais ça, je peux de nouveau renvoyer au 33e épisode du podcast Crépidule où on parlait avec justement les trois gérantes de la librairie Oreilles Vives Books et qui, elles, parce que c'est un collectif, elles, avec des femmes et des hommes et au sein duquel elles réfléchissent beaucoup à comment... traiter avec ces questions de sexisme au sein de l'organisation même.
Ouais. Et on n'a pas abordé l'intersectionnalité qui évidemment fait partie des luttes sur lesquelles on veut s'arrêter, parce que là aussi on a bien vu que voilà, des personnes femmes racisées, etc. Eh bien, sont par ailleurs encore plus vulnérables. Et que là, même si à Libre Radio on a essayé quand même de relayer certains combats, eh bien, je pense que c'est un sujet sur lequel il faudrait également revenir.
Après, moi, je ferai attention de dire par ailleurs... pardon, j'arrête pas de te reprendre.
Non, mais c'est très bien.
Peut-être c'est pas par ailleurs plus vulnérable toujours, mais je pense que selon les situations, les discriminations subies, les agressions subies sont très différentes. En fait, les expériences des personnes diffèrent beaucoup selon les contextes.
Tu fais bien de préciser. J'ai envie de dire, on s'arrête là alors pour aujourd'hui ?
Oui, on va faire la fête.
Voilà, exactement. Nous, on va encore faire un mini-sujet avec la bibliothèque Fahrenheit 451, ah oui. À ne pas confondre avec la librairie Fahrenheit 451 à Genève. La bibliothèque, elle est à Paris. On va juste rappeler encore vos collectifs et puis leur adresse de contact internet. Donc, Crépidule pour Lynn. Pardon, Lynn Crépidule.
Oui, alors Crépidule s'écoute sur crépidule@pluriel.com, aussi sur iTunes, et vous pouvez nous suivre sur Facebook, Instagram et Twitter sous le nom de Crépidule.
Et le prochain podcast ?
Le prochain podcast, le numéro 34, sortira le mardi 12 juin.
super, merci beaucoup Lynn. Et puis Myriam et Nesrine, et bien les squads, le collectif féministe.
Oui, alors vous pouvez nous suivre sur Facebook, donc c'est l'escouade genevoise, et sur Instagram, l'escouade Genève, et puis sinon notre adresse mail, lescouade.genève@gmail.com.
Voilà. Et là aussi l'agenda, la prochaine action, qu'est-ce qu'on avait dit?
Vous tient au courant pour l'histoire du clitoris à la crèche sur Facebook.
Voilà.
Voilà, très bien. Merci beaucoup. Et puis bonne fête des grottes.
Merci.
À bientôt. Voilà, nous on va faire une petite pause musicale et on se retrouve juste derrière avec Ernest London en direct de Paname. Et bien pour parler de la bibliothèque Fahrenheit 451, c'est dans 5-7 minutes. Je te rappelle que si tu souhaites interroger, questionner nos invités, ça se fait à l'adresse suivante info@libradio.org ou alors via la page Facebook La Comète à la Banane. À tout de suite.
Les pouces mégots, les mégots, les ringards, les poils que les journaleux. Puis qu'abandonnent dans vos journaux qu'on voit ma tronche à la télé. Je m'en vais souvent empoisonné, vous m'avez un peu trop gonflé. Je suis pas chanteur pour mes compères, mais je peux être teigneux comme un chien. Je déclare pas avec argon que le poète a toujours raison. La femme est l'avenir des cons, et l'homme est l'avenir de rien. Moi mon avenir est sur le thème, d'un bistrot des plus cradels, bordel. C'est que j'ai mis mon flingue. J'ai pas blessé en boucalé par les fachos, par les cochons. C'est pour mes camps d'entrivés qui foutent ma révolte au tombeau. Tous ceux qui me traitent de démago, dans leur cochon j'irai jamais. Renoncer mort, il est récupéré. Tous ces petits bourgeois du rap qui font pas qu'elle, qui font pas du rap. Ils font vieux leur vie de minable, en douce dans la bouche cala. Pas qu'on chante pas pour ses béons, mais j'ai pas dit mon dernier mot. C'est sûrement pas un disque d'or, moi dans la pia pour moi tout seul. Ils me feront virer dehors, ils me feront fermer ma gueule. Tant qu'il y aura de la haine dans mes frères, je ne chanterai que pour les dingues. Et bordel, où c'est que j'ai mis mon flingue? Y'a pas très bon dans la rue qui me colle au cul pour une photo. Y'a même des flics qui me saluent, qui me sursignent dans leur calot. Moi je crache dedans et je crie bien haut que le bleu marine me fait gerber. J'aime pas le travail, la justice c'est l'armée. C'est pas de mal qu'on verra marcher avec les connards qui vont en sûr. J'vois que j'ai les bras crevés, moi ce jour-là je reste en voiture. Rien à foutre de la lutte des crasses, tous les systèmes sont dégueulasses. Je peux pas encaisser les drapeaux, quoi que le noir soit le plus beau. La Marseillaise même en grégué, ça m'a toujours fait dégueuler. Les marches militaires ça fait blême, et votre république moi je la traîne. Mais bordel, où c'est que j'ai mis mon flingue? Puis quand m'a tiré mon calif, elle sort au métro Saint-Michel. J'ai pu les pieds dans une manie, sans un ou chapeau et cocktail. Alors oui comme un Salazar, plus de soudain face au picard. Mais les fusils, parler des grenades, que les contre la répression, en défilant en fascination, dans les frangins crèvent en prison, ça donne une bonne conscience au con. On est peu et on pousse mes mots, qui foutent ma révolte au tombeau. Si un jour je me fous la gueule par terre, sur ce sera de la faute à Levert. Je crève le nez dans le ruisseau, sur ce sera de la faute à Sarko. On laisse ma gueule sur le zinc, d'un bistrot des plus gravelles. Fais gaffe, j'ai mis la main sur mon flingue.